Chapitre 3e. Le lendemain, la belle Laure s'éveilla radieuse. Elle semblait avoir oublié toutes ses préoccupations de la veille. Elle accueillit aussi gracieusement le matin de son jour de fête que s'il ne revenait pas pour la 38e fois. Quand elle sonna, ce fut au lieu de Louisette, Claire qui parut. Claire qui n'entendait pas qu'une autre complimentât sa tante avant elle. Elle portait une corbeille de fleurs rares qu'elle répondit en riant sur le lit de la comtesse en lui souhaitant d'avoir des années aussi nombreuses et aussi brillantes. « Et puis ce n'est pas tout, » dit-elle, « les fleurs se fanent et on ne s'en souvient guère. Voici un petit ouvrage tout entier de ma main. Quoiqu'on m'accuse d'être paresseuse et qui te rappellera ta petite Claire quand elle sera sous les grilles. » En même temps, elle prit au fond de sa corbeille deux écrans de satin, artistement ouvragés, qu'elle mit sous les yeux de Laure. Sur l'un étaient brodées deux jolies tourterelles se pressant l'une contre l'autre à l'ombre d'un rosier, et paraissant dans les meilleurs rapports. Au fond du tableau, on voyait un autre tourtereau, mais vieux celui-là. Il se dirigeait à grands pas vers les deux premiers, et on lisait dans son petit œil rond l'intention bien arrêtée de les séparer. Sur l'autre, une des deux tourterelles était enfermée dans une cage en forme de couvent, et regardait tristement à travers ses barreaux son compagnon qui faisait d'inutiles efforts pour la joindre. Le père Tourtereau était encore au fond qui observait la scène, tout prêt à intervenir si besoin était. La comtesse ne put s'empêcher de rire aux éclats. « Tu es un démon d'esprit, » dit-elle à Claire, « mais c'est que tes volatiles sont de vrais portraits. Comment as-tu pu donner ta mine espiègle à cette blanche tourterelle? Je n'en sais rien, mais je te reconnais parfaitement. » Et le vicomte, « il est très bien aussi, mais ton chef-d'œuvre est le père, sans contredit. C'est si bien sa figure avare et rechignée. Où as-tu pris cette invention ? Dans ma petite tête, donc. L'idée d'immortaliser ma triste histoire par la broderie m'a beaucoup souri, et j'ai eu grand plaisir à l'exécuter. N'est-ce pas joli ? Charmant, mais j'admire autant que ton talent d'artiste et de brodeuse ta gaieté de philosophe. Comment peut-on tourner si gaiement une chose triste ? « Ah, petite tante, quand j'ai envie de pleurer, je me mets à rire. Quand on rit au nez du malheur, il est déconcerté et vous frappe moins fort. »« Tu mériterais, toi, qu'il t'épargnât tout à fait. N'est-ce pas ? Enfin, en attendant, je suis heureuse quand je dors. J'ai refait encore le même rêve cette nuit. En vérité, exactement le même, n'est-ce pas curieux ? Oui, tout à fait. Cela doit annoncer quelque chose. Et quoi ? Tu ne m'as pas dit hier que ce beau rêve est irréalisable ? Qui sait pourtant ? Le Dieu qui donne la pâture aux petits oiseaux pourrait bien protéger aussi de jeunes cœurs qui s'aiment tendrement. Oh, tante chérie, y aurait-il donc quelque petit espoir ? Demanda Claire, l'œil brillant. Allons, allons, dit Madame de Lude en riant. Voilà mon étourdi qui prend feu pour un mot, pour une maxime de Racine que j'ai citée et amplifiée. Ne va pas compter sur rien, je te prie. Comptez non, mais espérez, c'est permis. « Espère, si tu veux, mais va-t'en à présent, que je me lève. J'ai mille choses à faire aujourd'hui. Envoie-moi Louisette. » Un instant après, la belle comtesse était assise à sa toilette, et chose étrange, elle regardait le miroir de Venise avec l'air reconnaissant qu'on prend pour un ami qui, loin de vous dire des vérités désagréables, vous a rendu un service signalé. Louisette avait fini de la coiffer et elle-même plaçait au coin de sa lèvre inférieure la petite mouche destinée à en faire ressortir le vermillon quand un charmant petit laquais, la comtesse n'avait que des figures gracieuses à son service, annonça le chevalier de Pomerol. C'était un petit vieillard à l'allure coquette, à la physionomie spirituelle. Il tenait à la main un énorme bouquet. « Ma belle amie me pardonnera, » dit-il en s'inclinant avec cette grâce charmante d'autrefois, de forcer si matin la porte de son boudoir, mais je voulais être le premier à lui présenter mes hommages et mon bouquet. « Et c'était votre droit, mon cher chevalier, » répondit la comtesse en lui tendant une main blanche qu'il baisa galamment. « N'êtes-vous pas mon plus ancien ami ? Mais quel bouquet m'apportez-vous ? Ce n'est pas un bouquet, c'est un jardin. Toutes les fleurs de la création y sont réunies. Pourquoi vous étonnez, madame ? C'était bien le devoir de toutes les fleurs de la création, qui sont vos vassales, de se trouver à la fête de la rose leur suzeraine. Oh, chevalier, quel madrigal ! S'il est mauvais, prenez-vous-en à Sa Majesté le roi Louis XV, puisqu'il en est l'auteur. Ce madrigal était très beau pour Sa Majesté, mais il ne vaut rien pour vous. Parce que, madame, parce qu'un roi... Eh bien, un roi... Vous m'entendez assez. Un roi peut, tant qu'il veut, se permettre des banalités, tandis que le chevalier de Pomerol est obligé d'avoir de l'esprit, précisément. Hélas, belle comtesse, j'en avais. Et il vous en reste encore un peu pour les occasions. Voyons, je suis bien sûr que vous avez en poche un madrigal meilleur que celui du roi, madame. Convenez-en tout de suite. J'ai le don de seconde vue. Je vois transparaître à travers la moire de votre gilet un petit papier qui s'agite, qui brûle de sortir de la poche où il est captif. Donnez-lui donc la liberté et faites-moi lire ce que le seigneur Phébus vous a dicté en mon honneur. Puisque vous le voulez, bel ami. Et le vieux gentilhomme tira en effet de sa poche un petit papier rose, enjolivé de dorure, qu'il présenta à la comtesse. « Voyons, » dit-elle. En ce beau jour, je voulais chanter l'or, son doux visage aux gracieux contours, ses yeux lançant les flèches de l'amour, son teint si frais qu'il fait pâlir l'aurore. Mais Apollon, roi du docte séjour, me dit « Tais-toi, tais-toi, vieux troubadour, bien mieux que toi, d'autres chanteront l'or en ce beau jour. » Donc je me tais. Vous qui venez d'éclore, jeune talent, louez à votre tour cette beauté, l'idole de la cour. Moi, sans chanter, je fais des vœux pour l'or en ce beau jour. Comment, chevalier, ce n'est que cela? Je vous avais prévenu, belle dame, mais vous vous êtes obstiné à attendre quelque chose de merveilleux. On ne peut donner que ce qu'on a. Un pauvre vieux poète comme moi, qui ne possède plus qu'un luth sans cordes et que la muse n'inspire guère, ne peut vous fournir des vers comme ceux de Bernice ou de gentil Bernard. C'est égal. Sans muse et sans lutte, vous deviez faire mieux. Il fut un temps, je le sais trop, madame, il fut un temps où j'étais jeune, où les rimes les plus jolies, les cadences les plus gracieuses arrivaient sans se faire prier. Mais ce temps est bien loin, et en me le rappelant, vous renouvelez mes douleurs. Comment s'appelle cette espèce de chose que vous m'avez fait là? C'est un rondeau, madame. Un rondeau? Permettez. Il faut 13 vers pour un rondeau, si je ne me trompe. Vous ne vous trompez pas, mais comme le nombre 13 passe pour fatal. Vous avez préféré le nombre 11. C'était prudent, mais peu régulier. Depuis quand êtes-vous si savante, madame? Depuis toujours, monsieur. Je ne passe point tout mon temps à ma toilette, comme bien des gens se l'imaginent. J'en emploie une bonne partie à lire afin d'acquérir de l'érudition sur les rondeaux. Précisément. Aussi puis-je vous dire en style de rondeau, de ce rondeau je trouve tout fort beau, papier, dorure, image, caractère, hormis les vers. Je sais la fin, madame, mais enfin, que lui reprochez-vous à mon pauvre malheureux rondeau? Je lui reproche ses yeux qui lancent des flèches et ce teint qui fait pâlir l'aurore. Ah, madame, je vous ai fait jadis un sonnet où j'avais employé plus de métaphores et qui, malgré cela, avait l'honneur de vous plaire. Il y a longtemps, monsieur. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait beaucoup. Un moraliste a dit « Louer les princes des vertus qu'ils n'ont pas, c'est leur dire impunément des injures. » Louer une femme de la beauté qu'elle n'a plus, c'est à mon avis lui dire une impertinence. Mais à quel propos? À propos de vos compliments, que j'aurais pu prendre pour argent comptant, si un ami plus sincère que vous ne m'avait fait ce matin même, dit sans embâche, que la jeunesse a pris congé de moi. Quel est l'impertinent? Ce miroir, chevalier, il ne m'a pas fait de madrigal, lui. Que vous a-t-il dit? Quelque chose comme un contre-madrigal, ou si vous le voulez, une épigramme. Il a osé? S'écria le vieux chevalier en menaçant du poing le miroir de Venise. Il faut, madame, que vous me permettiez de le briser. Point du tout, monsieur. Calmez votre fureur. Je vous ordonne de le respecter pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un présent du roi, et ensuite, parce que c'est un honnête miroir plein de franchise. Il radote, vous êtes plus jeune que jamais. Non, chevalier, je suis au moment de vieillir. Ne vous tourmentez pas pour me dire le contraire, j'en ai pris mon parti. Et vous voyez bien que je n'ai pas une mine affligée du tout. Quant à votre rondeau, nous le modifierons. Nous mettrons clair à la place de l'or, et il ira merveille pour ma petite nièce. Mais cela ne rimera plus. Et qu'importe la rime quand il s'agit d'un rondeau de 11 vers. Êtes-vous moqueuse? Mais à propos... Que devient-elle, votre jolie Claire? Elle devient plus jolie chaque jour. Elle est à son aurore, elle, au lieu d'être à son déclin. Quel dommage qu'une si charmante créature soit obligée de prendre le voile. Ah, si j'étais riche! la bonne action que ce serait de conserver au monde cette ravissante enfant.
Vous trouvez ?
Oui, elle m'intéresse, cette pauvre petite, et son jeune amoureux aussi. Il est si candide, si naïf, ce garçon. Hier encore n'est-il pas venu me voir tout exprès pour me parler d'elle ? Si vous saviez comme il l'aime. C'est une églogue à la cour que l'affection de ces deux enfants est meilleure que celle où vous avez joué l'autre jour. Vous n'en êtes pas touché, belle amie.
Pardon, je le suis beaucoup.
De quel air léger vous dites cela ? Faut-il que je m'afflige, quand je viens précisément de trouver un moyen de les rendre heureux ?
Un moyen, lequel ?
Faites-moi le plaisir de descendre au salon pendant que je vais passer une robe. J'ai une course à faire, et puisque vous êtes là, vous m'accompagnerez.
Où devons-nous aller ?
Je vous le dirai en chemin.
Le chevalier s'inclina et sortit,
et Laure procéda à sa toilette avec une extrême vivacité. On fit en quelques minutes le travail où d'habitude on mettait une heure à l'effet de tuer le temps, et bientôt le même carrosse jaune qui avait ramené Flore l'avant-veille emporta la comtesse et le chevalier. Cette course le matin, assez en dehors des habitudes de Madame de Lude, étonna beaucoup ces gens. Louisette en particulier se perdit en conjectures. Claire elle-même s'attendit à quelque chose, mais sans bien savoir pourquoi son cœur était gai, et en entendant chanter les oiseaux de sa tante, elle se mit à chanter aussi. 2 heures après, la comtesse rentra. Elle était si rayonnante que l'étonnement de sa maison redoubla. Claire ne put s'empêcher de lui demander ce qu'elle avait.
« Je suis heureuse, » répondit-elle en embrassant la jeune fille.
Elle passa ensuite dans son boudoir, sourit au miroir de Venise en disant tout bas « Merci ».
Toute la journée, les visites et les bouquets se succédèrent à l'hôtel de Lude. La comtesse reçut des fleurs et des compliments en vers et en prose de gens dont elle n'avait pas jusqu'alors soupçonné l'existence. Elle devina facilement le pourquoi de toutes ces galanteries. L'attitude du roi à la dernière fête le lui expliquait. On la croyait déjà puissante et on ne lui marchandait pas les adorations qu'on prodigue si volontiers à tout astre qui se lève. Vers le soir, elle fit appeler Claire. « Maintenant, dit-elle, le tour des indifférents est passé. Voici venir celui des vrais amis qui souperont avec nous. Il s'agit de nous faire très belles pour eux. Je veux te coiffer moi-même. Mets-toi là et regarde-toi dans mon miroir. Que te dit-il ?
Que je suis jolie, répondit Claire naïvement.
Et heureuse ? Continua Madame de Lude.
Oui, il me dit que j'ai une mine heureuse. C'est à tort. Quand je réfléchis, je m'en veux d'être si gaie. Mais quoi, c'est un bonheur d'instinct.
Il faut toujours s'abandonner à ces bonheurs-là, ce sont les meilleurs. » Tout en parlant, la comtesse arrangeait les magnifiques cheveux de Claire, qu'on avait jusqu'alors coiffés en enfant, sans poudre, et qui voyait avec étonnement se former sous les doigts de sa tante un élégant échafaudage de boucles sur lesquelles une houppe de cygne faisait pleuvoir un givre léger.
« Louisette, dit Madame de Lude, allez chercher le fourreau de satin blanc de mademoiselle.
Mais... « Petite tante, je serai trop belle.
N'est-ce pas aujourd'hui ma fête, et ne faut-il pas que tu me fasses un peu honneur ?»«
Oh, je n'ai rien à objecter, j'aime la toilette à la folie, et c'est pourquoi il m'ennuie si fort d'aller au couvent, c'est si raide et si laid, ses guimpes et ses voiles. »
Le fourreau blanc fut apporté. Il était fort simple, comme il convenait à la toilette d'une jeune fille, mais la comtesse, qui était en veine de caprice, tira d'un meuble richement incrusté des dentelles splendides qu'elle ajusta aux manches de la robe de satin et à l'échancrure du corsage.
« Comme je suis magnifique !» s'écria Claire en folâtrant dans le boudoir et en se mirant dans toutes les glaces.
« J'ai l'air de la mariée que j'étais dans mon rêve. Reste un peu tranquille, enfant, » dit Madame de Lude qui venait d'ouvrir son écrin. « Ta parure n'est pas achevée. »
Elle attira la jeune fille et lui mit au cou et dans les cheveux ces églantines en brillant qui avaient si splendidement complété le costume de Flore.
« Pourquoi me mets-tu cela ? » demanda Claire presque inquiète.
« Pour que tu sois belle, » répondit Laure en l'embrassant.
« Et en effet, tu es belle comme un ange. À mon tour maintenant. »
Elle procéda à sa propre toilette, mais sa nièce et sa femme de chambre remarquèrent avec étonnement qu'elle écartait les costumes clairs et un peu tapageurs qu'elle avait jusqu'alors affectionnés. Elle prit une robe de taffetas gris cendré, ornementée de bleu, qui lui allait à ravir et qui était d'une rare distinction. Puis elle mit un rang de perles dans ses cheveux, un autre à son cou, et dit « J'ai fini. »«
Pourquoi cette plaisanterie ? » demanda encore la jeune Claire.
« Pourquoi mets-tu des perles, toi, et me fais-tu porter tes diamants ? C'est une fantaisie, enfant. Je juge beaucoup mieux de leur effet ainsi. Mais descendons, car nos amis doivent être arrivés, au moins en partie. » En effet, 8 ou 10 personnes étaient déjà réunies dans le salon de la comtesse. L'entrée des deux dames excita un mur d'admiration. Elles étaient si belles, toutes deux, l'une fleur épanouie, l'autre gracieux bouton de rose. L'idée d'une mère et de sa fille ne se présentait pas malgré leur ressemblance. On les eut prises pour les deux sœurs. Le chevalier de Pomeral, qui lui avait l'air d'assez mauvaise humeur, dit à demi-voix à la comtesse en la menaçant du doigt « Vous vous repentirez ?»«
Jamais, »
répondit-elle gaiement. La conversation fut vive et animée. On débita beaucoup de madrigaux à la belle Laure et quelques-uns à la charmante Claire. Mais en somme, comme les gens qui étaient là avaient tous un brin d'esprit, on ne fut pas trop fade et on rencontra par-ci par-là de jolis mots. Cependant, Madame de Lude, tout en faisant à ses hôtes les honneurs de son salon avec sa grâce exquise, ne pouvait s'empêcher d'interroger assez souvent l'aiguille de sa pendule, et il y avait dans son coup d'œil une légère nuance d'impatience. Enfin, un peu après 9 heures, la double porte s'ouvrit et on annonça messieurs de Chanzé. Tous les amis de la comtesse se regardèrent avec un profond étonnement. On n'ignorait pas que, depuis que le jeune homme avait voulu épouser la petite Claire, son père était brouillé avec Madame de Lude. Son arrivée chez elle, un jour de fête intime, était passablement extraordinaire. Quant à Claire, rouge comme une cerise et tremblante comme une feuille, elle n'osait lever les yeux. Les deux nouveaux arrivés traversèrent le salon et allèrent présenter leurs hommages à la maîtresse de la maison. « Claire ?» dit la comtesse en prenant la main du jeune homme et en le présentant à sa nièce. « Voici ton fiancé. » Tout le monde s'est élevé et approché curieusement. Claire ouvrait de grands yeux et regardait alternativement sa tante et son jeune ami dont le visage rayonnait. « Oui, mademoiselle, » dit le vieux comte, qui ne paraissait guère moins radieux que son fils. « J'ai eu l'honneur de demander votre main pour Louis à madame votre tante, qui a bien voulu me l'accorder. »
« Oh, mon rêve !»
s'écria la jeune fille en tendant la main au jeune vicomte qui la porte avec enthousiasme à ses lèvres. Puis elle se ravisa, et comme si elle craignait d'être la dupe d'une illusion, elle se retourna vers sa tante et demanda «
Mais comment cela se peut-il »«
Fi donc !» répondit madame de Lude. « Oses-tu bien dans un pareil moment t'inquiéter des comment et des pourquoi ? Ne peux-tu être heureux sans savoir d'où vient ton bonheur ?»«
Louis, le savez-vous ? »
demanda alors Claire au jeune vicomte.
« Je soupçonne, madame la comtesse, répondit-il, d'être la bonne fée. »«
Et c'est avec raison, dit le vieux monsieur de Chanzé. Vous me permettrez bien, madame la comtesse, d'apprendre à ces jeunes gens, comme à ces dames et à ces messieurs, votre généreuse action. Mademoiselle Claire, j'ai dû vous paraître un peu dure en refusant d'abord l'honneur de votre alliance. J'étais bien tenté, cependant, de vous donner à mon fils. Bonne noblesse, jolie figure, excellente qualité. Mais enfin, noblesse et beauté ne sont pas tout, et, pour un homme sage, l'argent doit passer en première ligne. J'espère que tout le monde ici me comprend. Mais aujourd'hui, madame la comtesse a levé l'obstacle qui séparait ces deux aimables enfants, et je suis bien heureux de les réunir. Madame la comtesse fait à sa nièce le généreux abandon de sa fortune presque entière. À ces paroles, un cri d'admiration s'éleva de toutes les poitrines.
Oui, continua le vieux comte. « Madame de Lude ne se réserve que 25 000 livres de rente et le second étage de son hôtel. Elle cède tout le reste à mademoiselle Claire d'Aigval, ainsi que ses meubles, équipages et bijoux. »«
Mais, » s'écria Claire, « je n'accepte pas cela. Comment, ma tante, tu te dépouilles pour moi et tu as cru que je le souffrirais ?»«
J'ai cru que tu m'obéirais quand je te dirais « je le veux ».»«
Oh non, je n'obéirai pas. Je ne veux pas être heureuse à ce prix, Louis. » Dites aussi que vous n'acceptez pas de telles conditions. Nous ne pouvons pas voir ma tante se priver de tout pour nous bâtir. Mieux vaut nous séparer, n'est-ce pas ?
Ah, répondit Louis, je n'ai pas assez de courage pour être de votre avis.
C'est absurde, dit à son tour le comte de Chanzé. On n'aurait jamais vu refuser un pareil don, si considérable.
C'est bien parce qu'il est considérable, monsieur, que je le refuse.
Mais je vous le répète, c'est absurde. Madame et moi, nous sommes d'accord. « Mon notaire a reçu ordre de dresser le contrat et... »«
Calmez-vous, mon cher comte, »
dit madame de Lude, en souriant de l'air effaré de monsieur de Chanzé, qui déjà croyait voir cette fortune lui échapper. « Calmez-vous. »
« Claire acceptera la donation que je lui fais. »«
Oui, tu l'accepteras, »
continua-t-elle en remarquant un mouvement négatif de la jeune fille. « Nous sommes ici entre amis. Je puis bien vous expliquer à tous le secret de ma conduite. » On fit cercle autour de la comtesse, et alors elle raconta d'un ton plein d'enjouement son aventure avec le miroir de Venise.
« Je lui ai bien des obligations, » dit-elle ensuite. « Il m'avertit franchement que ma beauté allait bientôt déserter le logis. » « Je sais très bien que je suis belle encore en dépit de ces légers plis, visibles au très grand jour seulement. Mais quand on est près de la quarantaine, la beauté ressemble à ces agréables jours d'automne qui se donnent des airs de printemps, et au lendemain desquels on a le vent qui dépouille les arbres, voire même quelquefois la neige et la glace. Il est de bonne tactique de quitter le monde avant qu'il nous quitte. J'avoue que j'étais séduite par l'idée de m'en retirer avec tous les honneurs de la guerre, de le quitter au lendemain d'un succès dont on gardera le souvenir. C'est donc pour ce motif tout personnel que je me suis décidé à me mettre en retraite un peu plus tôt que la date que je m'étais primitivement fixée. Je ne nierai point que l'idée de faire le bonheur de Claire ne se soit associée à la première et n'ait fortifié ma résolution. À quoi me servirait maintenant, puisque je suis décidé à ne plus aller dans le monde, ces grands appartements, ces équipages, ces pierreries? Tout ce luxe, enfin, qui n'était hier que le nécessaire et qui devient aujourd'hui du superflu. C'est me rendre service que de m'en débarrasser. Accepte-le donc, Claire, d'aussi bon cœur que je te le donne, et aime-moi un peu pour ma récompense. »
La jeune fille se jeta dans les bras de sa parente et l'embrassa avec effusion, et le jeune vicomte, en baisant la main de madame de Lude, y laissa tomber de chaudes larmes de reconnaissance.
« À la bonne heure, » dit le père, « on est raisonnable à présent. »
Toute la société félicita les jeunes fiancés de cet heureux dénouement de leur amour et témoigna à la comtesse son admiration pour le parti héroïque qu'elle avait pris. Quelqu'un lui demanda si elle ne craignait pas la solitude.
« Pas du tout, » répondit-elle. « En prévision de ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai depuis ma jeunesse cultivé mon esprit. Les livres ne me manqueront jamais, ni mes amis non plus, j'espère. Et cédant mon hôtel à ces jeunes gens, je me réserve l'appartement du second, comme vous l'a dit monsieur le comte de Chanzé. Vous aurez quelques marches de plus à monter, mais ce n'est pas, je pense, un obstacle capable d'effrayer l'amitié. » On répondit par les protestations usitées en pareil cas, et qui par exception se trouvaient sincères.
« Vous voyez donc que je ne perds rien. Je conserve mes amis et je gagne une famille.
Mais la cour perd beaucoup, » dit monsieur de Pomeral.
« Comment donc ? Je lui laisse une jeune remplaçante qui rappellera parfaitement ce qu'était la comtesse de Lude lors de sa présentation. Je lui conseille de se plaindre. »
La soirée se passa d'une manière charmante. La comtesse en fut l'âme. Jamais elle n'avait été si belle et si séduisante.
« Je vous dis que vous avez fait une extravagance, » lui répéta le chevalier de Pomeral avant de se retirer. « Gare les regrets plus tard. »
« Ne craignez rien, chevalier. » J'avais dormi sur cette résolution et, comme on dit, la nuit porte conseil. J'ai agi très sagement et je m'en applaudis. Et puis, si je m'ennuie jamais, j'ai une distraction toute trouvée, j'écrirai mes mémoires.
Le mariage eut lieu après Pâques. Le matin du grand jour, la jeune épouse trouva sur sa toilette le miroir de Venise.
C'est encore un présent de noces, dit la comtesse. Conserve-le précieusement, ma chère fille, et consulte-le souvent. On nous blâme d'avoir de trop fréquentes relations avec ses conseillers intimes. On a tort. Le miroir d'une femme est son meilleur ami. En lui montrant les défauts de son visage, il lui indique ceux de son cœur, car les uns et les autres ont une relation intime. Il lui enseigne la douceur, car la douceur donne du charme. Enfin, il lui apprend à vieillir. Il ne s'agit que de s'y bien voir.
La retraite de madame de Lude fit beaucoup de bruit à la cour. Ce monde frivole fut dans l'admiration de voir une femme belle et jeune encore céder si gaiement sa place à une autre.
« Le caractère de cette femme, dit Louis XV, est comme sa beauté, admirable. »
Ce mot du roi, que les échos de l'hôtel de Lude répétèrent à la belle recluse, lui fut une véritable récompense de ce qu'elle avait fait. À cette époque, un mot du roi avait plus de valeur qu'à présent. Elle sut aussi que Louis XV avait été triste quelques jours, et elle put, sans une excessive vanité, croire qu'il regrettait un désornement de sa cour. Elle vécut longtemps, L'existence calme qu'elle avait su adopter conserva sa fraîcheur et sa beauté jusqu'aux limites de la vieillesse. Elle fut toujours très entourée. Elle n'allait plus à la cour, mais la cour venait la chercher. La chronique assure que ses neveux ne furent jamais ingrats, et tout porte à croire qu'elle fut heureuse. Du moins, la vit-on constamment gaie. Les jeunes femmes venaient souvent entourer son fauteuil et prenaient d'elle des leçons de grâce et d'amabilité. Elle les charmait par ses récits d'autrefois, mais jamais le gracieux auditoire n'était plus attentif que lorsque la comtesse voulait bien leur raconter l'histoire du miroir de Venise. Berthe Vadier.